Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, notre première destination est l'Algérie avec ce 113e jour de colère. À la fois à Alger, dans les principales grandes villes et nombre d'agglomérations. Le Irak est là, le Irak est toujours là pour rappeler la volonté du peuple de changement. Un collectif de 8 associations de défense des droits de l'homme a pris la parole pour attirer l'attention de l'opinion publique et également des médias sur le sort de 23 personnes algériennes qui ont été arrêtées parce qu'ils participaient au Irak. Une grève de la faim a été entamée, voici 9 jours, leur état de santé s'est considérablement dégradé. Ils auraient quitté leur cellule pour être transportés vers un hôpital. Beaucoup d'inquiétudes quant au devenir de ces hommes qui ont décidé d'arrêter de s'alimenter pour attirer l'attention sur le droit à la grève, le droit à manifester, le droit à avoir un avis autre que celui du gouvernement, un droit qui, selon ces manifestants, est aujourd'hui bafoué en Algérie. Également de l'impatience en Algérie puisque la Poste fait grève, un mouvement qui a été déclenché assez rapidement, tout juste avant le Ramadan, concernant des revendications de conditions de travail. Le ministre Brahim Boumzar a pris la parole pour dire qu'il comprend d'une part que ces dossiers, ces vieilles revendications, dit-il, n'ont pas été résolues, donc que d'un côté il veut comprendre la colère des employés de la Poste, mais d'un autre côté il veut rappeler que cela empêche nombre de citoyens de venir retirer leur salaire et leur pension en cette période de Ramadan. Il demande aux grévistes de reprendre le travail dans les plus brefs délais, sinon, menace-t-il, il y aura des procédures légales qui seront décidées à l'encontre des grévistes. Décidément, la Tunisie, il n'est pas un jour qui passe sans que la situation épidémiologique se dégrade, notamment dans la ville frontalière de Ben Gherden. C'est là où il y a une suspension des cours pendant 10 jours. Les syndicats ont absolument demandé à ce que les enfants ne viennent plus à l'école pour empêcher la propagation du coronavirus. Le ministère de l'Éducation à l'échelon national, bien évidemment, est au courant de cette demande du corps enseignant de suspendre les cours. Pour l'instant, pas de décision a été prise, mais la presse tunisienne croit savoir que le ministre de l'Éducation serait très attentif à cette demande qui a été formulée par le corps professoral tunisien. Et puis on peut signaler que dans le gouvernorat de Kasserine, encore des mesures qui ont été prises pour empêcher la propagation du virus, la fermeture des marchés hebdomadaires, la fermeture des bains, des salles de sport, des jardins d'enfants, tout cela pour empêcher le coronavirus de progresser en Tunisie. Mauritanie, avec l'ancien président Ould Abdelaziz, qui est actuellement poursuivi devant les tribunaux pour des faits de corruption. C'est dans la presse que celui-ci prend la parole pour dire tout ce qu'il pense de la procédure judiciaire qui a été déclenchée à son encontre. Et puis également, il livre des informations sans en apporter la preuve, mais en tout cas des éléments qui sont donnés par cet ancien dirigeant. Il parle d'un gaspillage de l'argent public, des autorités actuelles, des fermetures de boutiques de distribution, de programmes d'aide alimentaire également. Il parle de faits de corruption. En tout cas, il faut lire ce déclaratoire de Ould Abdelaziz dans le cadre de ce rapport de force qu'il y a entre l'ancien président mauritanien et les autorités actuelles à Nouakchott. Voilà un tour de table bien rare dans notre région méditerranéenne. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir le ministre des Affaires étrangères israélien, celui des Émirats arabes unis, de la Grèce et de Chypre se réunir à Chypre aujourd'hui, justement. Donc une nouvelle forme de réunion. Alors pour parler bien évidemment des questions politiques et stratégiques dans la région, mais tout de même de façon très pragmatique, alors que l'été s'approche, beaucoup de discussions qui sont engagées concernant le tourisme, le vaccin. Est-ce que oui ou non, des touristes vont pouvoir remonter dans les avions et faire vivre la mobilité des gens pour qu'ils puissent soit aller en Israël, soit aller en Grèce, soit à Chypre, ou même dans les Émirats, pour passer quelques instants de vacances. Beaucoup d'inquiétudes en cette année 2021. Enfin, ce bilan des derniers combats sur la ville de Marib au Yémen, la pression militaire houthi autour de cette ville qui est l'un des derniers bastions à tenir. Il y aurait eu une centaine de morts, de nombreux blessés et des destructions tout autour de cette ville qui continue de résister à la poussée des rebelles houthis. L'ONU exhorte les houthis à accepter leur proposition de plan de paix. Ce n'est pas la première fois que l'ONU le fait. L'idée étant que le gouvernement de Hadi et les rebelles houthis se conforment à un cessez-le-feu, ouvrent les routes reliant le nord et le sud pour permettre la circulation de l'aide humanitaire et des marchandises ainsi que des personnes. Mais pour l'instant, les rebelles houthis ne veulent rien entendre. Ils poursuivent leur offensive sur la ville de Marib. Incertitude en Irak. Notre escale aujourd'hui nous mène au Kurdistan irakien, sur la base américaine de Ain al-Assad. C'est là où sont stationnées des troupes dans le cadre de la lutte contre le groupe État islamique. Il y aurait eu une attaque très tôt ce matin. 3 drones ont été utilisés. Est-ce qu'il y a eu des dégâts? Est-ce qu'il y a eu des tués et des blessés? Pour l'instant, nous ne disposons pas d'informations précises. En tout cas, c'est vrai que ces dernières heures et derniers jours, nous avons assisté à une pression accrue de la part des groupes irakiens à l'encontre des forces américaines déployées sur zone. Une énorme explosion hier a visé un convoi qui transportait des missiles et d'autres équipements. Convoi qui avait pris la direction de la base aérienne de Ain al-Assad. C'est un groupe irakien qui est connu sous le nom de Ashab al-Khaf qui a revendiqué l'attaque. Donc l'un de ces groupes qui mène aujourd'hui beaucoup de pression sur le Kurdistan irakien. Souvenons-nous que l'aéroport international de Erbil a été attaqué. Et on s'est posé une question, puisque ça a été de nouveau une attaque de drone. On s'est demandé la chose suivante. Mais est-ce que le drone a lâché un explosif qui ensuite a percuté le toit d'un hangar, ça a provoqué l'explosion? Ou bien est-ce que c'est un drone qui s'est volontairement projeté contre le hangar? Parce qu'il y a une nouvelle expression qui aujourd'hui accourt, c'est celle de drone suicide, des drones qui sont chargés d'explosifs et la personne qui est aux commandes sur son joystick projette le drone et cela va provoquer l'explosion finale de l'acte terroriste. Alors, est-ce que ce sont des drones qui sont contrôlés, qui lâchent un explosif et qui rentrent, ou est-ce que ce sont des drones qui sont projetés contre leur cible? C'est toute la question qui se pose, ce qui pourrait induire une légère inflexion opérationnelle de la part de ces groupes irakiens qui luttent contre la présence américaine en Irak. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.